Bonjour Alex Lutz.
Bonjour.
Votre dernier long métrage Connemara est l'adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu. On y suit Hélène à l'un de ses carrefours de vie importants, décisifs même, j'ai envie de dire. C'est ça qui vous a donné envie de raconter cette histoire au cinéma ?
Oui, enfin, ce qui m'a donné surtout envie de raconter cette histoire au cinéma, ça vient de l'écriture quand même de Nicolas Mathieu, ce romancier merveilleux qui a un tel sens du portrait et son succès ne vient pas de rien, il vient de la capacité qu'il a à nous donner un miroir, on se reconnaît. Et puis ce qu'il y a de très beau, c'est qu'avec tous les personnages, on se reconnaît. C'est là, moi, je trouve la force d'un grand écrivain, c'est que dans tous les personnages, il y a un élément qui résonne
en nous et qui nous émeut.
Même avec parfois des personnages qu'on n'aime pas au fil des pages. Et puis au bout d'un moment, sur un truc, il nous tord le bras, on est là, ah salaud.
C'est la force.
Donc c'est ça qui m'a donné envie. Et puis bien sûr, voilà cette étreinte amoureuse avec ce mi-temps de vie pour le personnage d'Hélène, c'était aussi l'occasion de raconter un beau portrait féminin d'une femme aujourd'hui.
Le burn-out parental professionnel, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Est-ce que notre génération est plus touchée, vous pensez, que les précédentes ?
Par la force des choses, puisque c'est aussi le résultat de ce à quoi on a cru très fort, de pouvoir être over-performant partout, avec quand même des pages publicitaires de société qui nous donnent cette sensation-là de devoir être performant en tant que parent, performant au travail, bon amant, bonne maîtresse. Il y a un jeu du classement quand même. Il n'y a plus une émission de cuisine, il y a des concours. Il n'y a plus une émission même jusqu'à de la décoration, jusqu'à n'importe quoi. Ça peut avoir des intérêts, bien sûr, mais c'est sûr que ça doit sans doute décupler le sentiment de devoir cocher tout juste, tout le temps.
Cette injonction à la perfection permanente, quoi.
Et puis vu que quand même, moi je suis pas un passéiste, je pense quand même qu'à plein d'égards, on a progressé beaucoup quand même, même si le monde est dur, on s'en rend bien compte, mais quand même il y a eu des gros progrès. Vu que ça opère du résultat un petit peu sur la santé, sur plein de choses, enfin voilà, par rapport à une France campagnarde du début du siècle, c'était dru, c'était âcre, c'était dur, la vie était dure, la survie était dure, etc. Ça, c'est des choses qui ont quand même un peu changé. Alors ça nous donne la sensation, mais vu que ça nous donne aussi la sensation, on veut d'autant plus réussir, et vu qu'on veut d'autant plus réussir, enfin voilà, c'est une espèce de machine qui peut un peu s'emballer. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on est peut-être plus sujet à ces nouvelles maladies de nervous breakdown et autres décrochages.
La quête de sens et le besoin de retrouver ses racines, il en est aussi question dans Sex, Grog et Rocking Chair, votre troisième seul en scène.
Oui, bien sûr. Dans Sex, Grog et Rocking Chair, c'est le départ de mon père et le décès de mon père, et c'est ce qui s'en est suivi et ce que ça m'a créé d'envie de raconter ça, quoi. Mais bien sûr, c'est aussi un travail de retour. Mais de toute façon, moi, je travaille je crois que c'est la matière du temps qui me passionne le plus. De temps, de ce qu'on en fait, de ce qu'il en reste, de comment on se débrouille avec ça, voilà, quoi.
Et c'est un très bel hommage, là aussi. Votre père, qui faisait partie de la génération des boomers, donc il y a le conflit des générations. C'était ça, là, le point de départ, votre envie.
Avant son départ, avant sa mort, je voulais de toute façon faire un spectacle sur ça, sur ma génération, sur la génération précédente, celle de l'après-guerre. Et puis son décès m'a créé quelque chose de tout indiqué pour y aller. Et finalement, de manière beaucoup plus personnelle, j'avais même un peu peur de ça. Je me dis, oh là là, je ne suis pas un amoureux de l'impudeur. Et en fait, c'est très touchant de jouer ce spectacle. Déjà, on y rigole beaucoup, on y rit beaucoup. C'est quand même un spectacle pour rire, mais c'est aussi un spectacle pour s'émouvoir. Moi, j'aime bien quand tout ça, c'est un peu mêlé. Puis je me rends compte que ça parle, on traverse tous ça. C'est soit la peur de ça, soit on le traverse, quoi. Le deuil, c'est une drôle de machine à vivre. Et en même temps, comme je vous disais, comme dans la vie, c'est toujours sujet à de la cocasserie, à de la drôlerie aussi, quoi.
Finalement. Et heureusement.
Et heureusement, ouais, non, c'est vrai, mais bon, voilà.
Et en tout cas, ce spectacle, il ne vous permet pas de faire votre deuil, puisque je sais qu'on ne fait pas son deuil.
On ne fait pas son deuil, voilà. On est malheureux pour toujours,
pour, toujours.
Voilà, pour chers auditeurs.
Mais par contre, ça permet de continuer la conversation avec lui, quelque
oui,
part.
Oui, et puis en fait, je ne peux pas... Alors, pour des gens qui auraient peur ou qui vont peut-être... Ou qui se disent... Il y a peut-être parmi vos auditeurs des gens qui... Voilà, qui vont y être confrontés, qui savent qu'ils vont y être confrontés avec un parent, tout ça. Le seul témoignage que je veux dire, c'est que bien sûr, c'est un chagrin, mais abyssal et qui ne part pas, hein, ça, je ne veux pas vous mentir. Alors que moi, je me disais, bon, ben voilà, il y aura le temps. Et en fait, c'est super que ça ne parte pas. Parce que ça mute, ça change. Et puis, ça les rend très, très vivants, en fait. Ça les rend très...
Encore présents,
ben, l'impression ouais, qu'ils sont et toujours en fait, là. Je vous aurais dit au début, quand il est décédé, je rêvais que tout ce qui me chamboulait disparaisse au bout de 6-7 mois. Plus jamais, je dirais ça. Plus jamais, je dirais ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas, en fait, perdre cet état d'âme qui me rattache à lui, quand même, aussi. C'est chouette, quoi. Bon, c'est pas rigolo, mais il est sur mon épaule, quoi.
Il est toujours là.
Ben ouais, c'est pas plus bon.
Voilà, c'est pas plus mal. Ouais. Alex Lutz, dans votre dernier film Connemara, il y a une scène très touchante qui se déroule en voiture où on assiste au pétage de plomb, on peut le dire comme ça, hein, d'Hélène. Là, c'est vraiment le début de son craquage, on peut dire, dans la voiture.
Le craquage est vraiment au tout début du film, mais c'est des petites...
Mais je la trouve très touchante à ce moment-là.
Moi, je suis très, très bouleversé par ça parce que... Il pleut, il ne se passe rien d'autre qu'elle est prise sous la pluie, elle est trempée comme une soupe et elle a un rendez-vous après. Et puis, je suis très touché que vous aimiez bien cette séquence parce que j'en suis fou, moi. Elle a un truc comme ça, elle rentre, elle a les habits glacés et tout. C'est pas grave, en fait. C'est pas grave, mais tout à coup, ça devient une montagne. Mais c'est l'après-burnout aussi, c'est, ça vient se convoquer avec des petites piqûres de rappel, quoi. Le film est construit comme ça, dans sa grammaire. C'est presque une grammaire de film, presque un peu inconfortable, hein, j'en conviens, mais qui est sans doute aussi telle qu'elle traverse ce moment de vie.
Ouais, elle est très touchante.
À plein d'endroits, il y a beaucoup d'inconfort pour Hélène, et puis au fur et à mesure... Elle retrouve son aplomb, quoi, pour avoir à faire le chemin qu'elle a à faire.
Alex, vous le savez, vous l'avez compris, sur le 107.7, on cherche toujours un peu une allégorie avec l'automobile.
Avec la route.
Le voyage, voilà. Et moi, j'ai trouvé en tout cas que la voiture, c'était vraiment le symbole, enfin, un sas de décompression, voilà, pour elle à ce moment-là. Vous qui avez grandi en Alsace, est-ce que vous avez des souvenirs de départ en vacances, en famille ?
Oui. Et puis, je me souviens que mon père fumait dans la voiture, évidemment, je suis un enfant de ça. Je me souviens à chaque fois qu'on avait peur d'aller vers la Suisse. Parce qu'il y avait l'histoire des douanes suisses et qu'on savait qu'on allait y passer du temps parce qu'elles étaient plus sévères que d'autres douanes ou je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai des souvenirs un peu ensuqués comme ça. Et puis j'ai des souvenirs de c'est pénible, c'est très long. Et la route, et la route, et la route, et la route. J'ai des souvenirs de hop, blackout parce qu'on s'endort. Et puis hop, la lumière du matin vers la destination de vacances à la campagne, à la côte ou à la montagne. Voilà, une espèce de moment où ça y est, ça...
Ça
la destination arrive.
Ouais. Et c'était bien dans la Saab 900 de papa, c'est ça ?
Ah non, il n'y avait pas une Saab 900, il avait une Alfa Romeo 33 Break. Dans le spectacle, je dis une Saab 900 parce que c'est plus rigolo. C'était pas la vraie. Mais je parle aussi d'une Alfa et c'était cette Alfa, voilà, Alfa 33 Break que j'adorais, Break 4x4.
Ouais, très vintage.
Très vintage, dans laquelle j'avais vomi alors qu'elle avait 2 jours et elle a pué pour le restant de son existence de voiture. J'en suis vraiment désolé.
Si elle nous écoute. Parmi les innombrables sketchs qu'on adore retrouver, regarder de Catherine et Liliane, il y en avait un sur les conducteurs seniors, vous en souvenez ?
Oui.
Les pauvres. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce côté, surconfiance, quoi, de Catherine, la conductrice.
Ah oui, qui pense qu'elle est très bonne conductrice alors qu'elle est aïeche. Mais... Moi, vous savez, j'avais perdu des points à un moment donné, c'est un truc. Et puis, j'avais vu que je ne voulais pas en perdre davantage, parce que je prends quand même souvent la route et je me disais, ça va vite. Enfin, voilà, on ne sait jamais. J'ai fait un stage par choix, là, pour faire un stage pour récupérer 2 points ou quelque chose comme ça. Et j'y allais vraiment en tirant les pieds. En disant,
la corvée.
Ouais. Et en fait, j'ai adoré ça.
C'est vrai ?
J'ai adoré ces 2 jours. C'était 2 jours rien qu'à nous. Tout d'un coup, tout s'arrêtait pour ce stage. La vie professionnelle, le machin, le truc et tout ça. C'était un moment pour remettre un peu les compteurs à zéro. Ben, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a modifié des manières de penser la route, même si on a nos automatismes. Et en fait, je trouve que c'est super de se dire, tiens... Tous les points ou pas points maintenant, tous les ans ou tous les 2 ans.
C'est des rappels importants finalement.
Ouais, c'était vachement bien. Puis on travaillait ensemble en équipe. Alors il y a toujours la mauvaise foi de l'intel, le rigolard de je sais pas quoi.
Il y en a toujours.
Mais c'est toujours super. C'est super. Tout d'un coup, vous êtes en classe de 5e et dire oui, mais moi, je pouvais pas deviner parce qu'en fait, dans ce que vous dites sur votre priorité, et c'est super. C'est super.
Ça donne trop envie.
Ben ouais, c'est super. C'est sûr, si vous êtes avec des semelles de plomb. Mais après, voilà, faites un tour de table, tout le monde râle de pourquoi il a perdu ses points, de comment, pourquoi, tout ça. C'est un moment humain et c'est super, moi j'avais adoré ça.
Et puis la route, quand on est en tournée, c'est quelque chose qu'on connaît bien.
Qu'on connaît bien et elle est dangereuse en fait, on peut se raconter de c'est vraiment dangereux cette affaire, donc c'est super de tâcher de faire gaffe quand même.
Merci beaucoup.
Merci.
Alex Lutz d'avoir voyagé avec nous. Belle
Merci.
Route.
Et ben longue route, belle vie.
Hein, merci encore.